France Inter. Pierre Veille, le 6-9 de l'été.
Et Cyril Dion est l'invité du grand entretien sur France Inter, réalisateur de documentaires. On se souvient de Demain, 1 million de spectateurs, un César en 2016. Et puis on a vu la suite, Après-demain, on l'a vu sur France 2 en décembre dernier. Vous êtes cofondateur du mouvement Colibri avec Pierre Rabhi. Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
Vous serez le garant de la Convention citoyenne pour le climat. C'est une promesse d'Emmanuel Macron à l'issue du grand débat. 150 citoyens vont être tirés au sort ce mois-ci. On va y revenir dans un instant. D'abord, ce rapport du GIEC sur les terres qui a été approuvé hier à Genève. Le réchauffement climatique affecte les terres consacrées aux cultures, à l'élevage ou encore les forêts. Et par ricochet, la sécurité alimentaire, l'alimentation mondiale est en danger. Quels changements, selon vous, sont nécessaires désormais dans notre agriculture, dans notre alimentation ?
C'est la sécurité alimentaire à la fois pour la nourriture mais à la fois pour l'eau, puisqu'il y a aussi un certain nombre d'études qui sont parues dernièrement qui montrent qu'il y a un quart des pays sur la planète, un quart de la population mondiale plutôt, qui serait en situation de manque d'eau extrême dans les années qui viennent et qui pourrait se retrouver en situation de jour zéro, c'est-à-dire plus d'eau au robinet. Et ça, c'est vrai pour Afrique du Nord, péninsule arabique, une partie du Brésil, une partie de la Chine, etc.
Mais quand on revient à ce rapport du GIEC, selon vous, Cyril Dion, est-ce qu'il faut changer maintenant, d'urgence, nos habitudes alimentaires et de quelle façon ?
Mais c'est sûr, enfin, on ne sait plus comment le répéter. La trajectoire actuelle, c'est plus 5 degrés. Plus 5 degrés, ça veut dire que il y a un bon nombre de pays sur cette planète qui deviennent inhabitables. Ça veut dire qu'il y a, un scientifique allemand, le directeur de l'Institut de climatique de Potsdam, qui disait en 2009 qu'on pourrait être seulement 1 milliard sur cette planète à plus 5 degrés. Il faut prendre la mesure de ce que c'est.
Mais alors, donc, changer ça veut dire, nos habitudes alimentaires, ça signifie quoi?
Ça veut dire réduire considérablement notre consommation de viande et de poisson. Donc aller vers une alimentation plutôt végétale. Il faudrait en gros qu'on soit à 80% de notre alimentation qui vient de sources végétales et 20% d'origine animale. Ça veut dire relocaliser une bonne partie de notre agriculture, faire en sorte que ce qu'on mange ne fasse pas des milliers de kilomètres avant d'arriver dans notre assiette. Donc produire beaucoup plus là où on habite. Ça veut dire avoir une agriculture beaucoup plus propre, on va dire, biologique. Faire en sorte que on sorte beaucoup la pétrochimie. Aujourd'hui, on a une agriculture qui est complètement dépendante du pétrole. Donc on aurait besoin d'aller vers des pratiques comme ce qu'on montrait dans Demain, par exemple, avec la ferme du Bec-et-Loin. C'est-à-dire une agriculture post-pétrole, qui est, en tout cas pour le maraîchage, beaucoup plus manuelle, qui est pour la culture de céréales, beaucoup plus avec des arbres, donc beaucoup plus d'agroforesterie, où on utilise beaucoup moins de pesticides, qui malheureusement font disparaître les abeilles, donc les oiseaux, donc les vers de terre, et beaucoup moins d'engrais chimiques qui ont tendance à minéraliser les sols et à donc à faire que les sols deviennent comme du caillou, de plus en plus durs, et donc qui absorbent moins l'eau, qui absorbent moins le CO2 et qui sont de moins en moins fertiles, donc qui ont besoin d'être perfusés tout le temps avec de plus en plus de produits.
Alors Cyril Dion, vous serez un des garants de cette convention citoyenne pour le climat. 150 citoyens vont être tirés au sort ce mois-ci. Qu'est-ce qui va se passer exactement maintenant ?
Ce qui va se passer, c'est que ces 150 citoyens, qui sont donc théoriquement représentatifs de l'ensemble de la population française, ça va être comme pour un sondage, en fait. On va prendre des gens qui sont à la fois jeunes, vieux, riches, pauvres, issus de l'immigration ou non, qui sont écolos ou qui sont pas écolos. Et on va leur faire, on va les former, en fait, à la question climatique. C'est-à-dire qu'on va les faire rencontrer un certain nombre d'experts qui vont leur expliquer justement quelle est la trajectoire actuelle, quelles sont aujourd'hui les difficultés qu'on rencontre et qu'on n'arrive pas à surmonter, quels sont les différents enjeux du réchauffement climatique, c'est-à-dire c'est quoi les secteurs les plus émetteurs, quelles sont les solutions qui existent déjà, et ils vont délibérer pendant 5 mois. Donc comme un juré d'assises, quoi. C'est-à-dire, c'est comme si vous preniez 150 personnes que vous leur demandiez de juger un procès, sauf que là, la question à laquelle ils vont devoir répondre, c'est comment réduire d'au moins 40%, tout est dans le au moins, parce qu'en réalité ça doit être plutôt moins 50 ou moins 65%, d'ici 2030. Et les propositions qu'ils vont formuler, à l'issue de ces 5 mois de délibération, qui auront été publics, c'est-à-dire qui auront été en direct sur Internet. On est aussi en discussion avec France Télévisions pour qu'il y ait des grands moments, pour que tout le monde puisse suivre, pour que toute la population française puisse avoir ces débats en même temps que les 150. Ces propositions, Emmanuel Macron s'est engagé à ce qu'elles aillent sans filtre au Parlement, au référendum ou à application réglementaire directe. Et on essaye de faire en sorte que ça soit l'Assemblée citoyenne elle-même qui puisse déterminer quels sujets doivent aller au référendum, quels sujets doivent aller au Parlement et quels sujets pourraient directement être appliqués par voie réglementaire.
Et qu'est-ce qui vous garantit que l'exécutif jouera le jeu et fera tout pour retenir vos propositions en les soumettant au Parlement ou à référendum? Vous avez des garanties?
Les seules garanties qu'on a pour l'instant, c'est la parole. C'est-à-dire que le président de la République s'y est engagé publiquement, donc on pourra toujours republier les vidéos sur Internet s'il décide de pas le faire. Et puis, ce qui devrait nous aider à ce qu'il le fasse vraiment, c'est continuer à faire monter la pression, à la fois la pression médiatique. Donc plus cette convention va être publique et plus les Français vont pouvoir y participer et plus il va être difficile à l'issue de cet exercice démocratique inédit de dire « Ah ben non, finalement, on fait pas de référendum ou on n'envoie pas au Parlement ». Et puis la pression qui doit continuer à monter dans la rue, c'est-à-dire les marches, c'est-à-dire la désobéissance civile, c'est-à-dire les actions en justice comme ce qu'on a fait avec l'affaire du siècle, et faire en sorte que ça devienne incontournable.
Mais Cyril Dion, vous, en tant que garant, est-ce que vous allez tenter d'influencer les discussions ?
D'influencer les discussions, en tout cas je vais participer à donner mon point de vue sur la situation à l'Assemblée citoyenne, puisqu'on va être invité notamment lors du premier week-end à parler aux 150 citoyens. Et puis après, mon rôle, c'est de vérifier que et le processus et l'issue de cet exercice sont conformes à ce qu'on a élaboré, puisque en réalité c'est une proposition citoyenne. Oui. C'est un collectif qui s'appelle les Gilets citoyens qui a proposé ça au gouvernement et à Emmanuel Macron, qui ont accepté de le faire. Donc ensuite, moi j'ai trois moyens de rétorsion. Le premier, c'est si j'ai l'impression que les choses dérivent et que le processus ne permet pas d'aboutir au résultat souhaité, j'en parle à Thierry Pech et à Laurence Tubiana, qui sont les coprésidents du comité de pilotage. Si ça bouge toujours pas, j'en parle publiquement, comme ce que je suis en train de faire ce matin. Et si vraiment les choses dérivent de façon beaucoup plus grave, j'ai le bouton rouge et je m'en vais.
Mais finalement, Cyril Dion, pourquoi cette procédure de convention citoyenne, alors que les mesures radicales, importantes pour lutter contre le réchauffement climatique, on les connaît ?
Parce qu'aucun gouvernement n'acceptera de les prendre de lui-même. En réalité, vous savez ce qu'il faudrait faire par rapport à la situation dans laquelle on est, qui est gravissime. Je ne sais pas si les gens se rendent compte vraiment à quel point c'est gravissime. Si on regarde simplement là ce qui s'est passé pendant le mois de juillet, quand on a vu au Groenland, là, on a vu 11 milliards de tonnes de glace confondues en une journée. Quand on a vu qu'on est le mois de juillet le plus chaud de tous les temps, qu'on a battu le record de température en France absolue, puisqu'on est monté à 46 degrés. Quand on voit que le permafrost en Arctique est en train de fondre 70 ans plus tôt que ce que les scientifiques imaginaient. Quand on voit que les forêts tropicales commencent déjà à ne plus absorber le CO2, c'est un satellite américain qui a fait une étude 2010-2017 et à cause des sécheresses et de la déforestation, commence déjà à ne plus absorber le CO2. Quand on voit que la Sibérie est en train de brûler de façon absolument délirante avec toute la vie sauvage qu'il y a avec et que ces phénomènes-là sont amenés à s'accentuer, juste un petit chiffre sur les migrations. L'Institut Max Planck, qui est un institut donc très sérieux en Allemagne, a calculé que si on continue comme ça, au Maghreb et au Moyen-Orient, il va être à peu près impossible de vivre dans les décennies qui viennent. C'est 500 millions de personnes qui habitent là-bas. Ces 500 millions de personnes, elles vont chercher à migrer si elles peuvent plus habiter dans leur pays. Donc elles vont chercher à venir plutôt au nord, plutôt dans nos pays. Ce qu'il faudrait faire là, maintenant, c'est une étude de la revue Nature qui le dit, c'est plus aucune infrastructure nouvelle pour les énergies fossiles sur toute la planète à partir d'aujourd'hui. On a entendu la chronique d'Anthony Bélanger, cette infrastructure gazière qui garantit donc cet accord de paix parce qu'il y a des gros intérêts financiers derrière, est une illustration parmi de nombreux autres qu'aucun gouvernement n'acceptera de prendre des mesures pour se passer complètement des énergies fossiles, pour aller vers des politiques de décroissance, parce que c'est ça qu'il faudrait faire. C'est de la décroissance économique. Aujourd'hui, il y a eu aussi une étude qui montre que le seul scénario crédible qui nous permettrait de rester en dessous d'1,5 degré, c'est une décroissance de au moins un point dans les décennies qui viennent sur l'ensemble de la planète. Est-ce que vous croyez vraiment que le gouvernement d'Emmanuel Macron va faire ça ? Est-ce que vous croyez vraiment que le gouvernement d'Emmanuel Macron, par exemple, va dire aux Français, il faudrait réduire de 50% le nombre de véhicules en circulation aujourd'hui? Il faudrait que vous réduisiez par 3 votre consommation de viande. Il faudrait que vous arrêtiez de prendre l'avion à chaque fois que vous pouvez faire autrement, notamment sur les vols intérieurs. Jamais. Donc, cet exercice-là, son objectif, c'est que des citoyens qui délibèrent, et on l'a vu dans d'autres exemples, en Irlande, au Texas, sur d'autres sujets, enfin, sur le sujet de la transition énergétique au Texas, mais sur des sujets très conflictuels en Irlande, comme le mariage pour tous ou le droit à l'avortement, oui, ont été beaucoup plus loin que des politiques élus parce qu'ils ne sont pas soumis ni aux intérêts des lobbies, ni à l'obligation, ou en tout cas l'obligation qu'ils se donnent d'être réélus, et donc d'essayer de faire plaisir à tout le monde.
Chez nous, en France, loi anti-gaspillage, taxes aériennes, loi énergie-climat avec des subventions pour la rénovation thermique des logements, le développement de l'énergie solaire, une charte avec les maires pour lutter contre les déchets plastiques, la circulation différenciée étendue. Voilà ce qu'on fait actuellement. Pour vous, ce sont des mesurettes ?
C'est pas que ce sont des mesurettes, c'est que c'est... Les politiques aujourd'hui, à la fois du gouvernement et à la fois d'un certain nombre de villes, en premier lieu de Paris, qui est une des villes qui va le plus loin aujourd'hui sur la lutte pour le changement climatique, sont plutôt plus ambitieuses que ce qu'on a vu par le passé. Mais étant donné que ça fait 40 ans qu'on attend pour agir, et que la situation s'est dégradée à une vitesse considérable, et qu'aujourd'hui, CNN disait récemment, il nous reste 18 mois pour prendre des mesures radicales pour inverser la situation, ça ne va pas du tout assez vite. Un cabinet d'études là qui s'appelle BL Evolution a fait un rapport pour mesurer, pour comparer en gros ce que le gouvernement fait et ce qu'il faudrait effectivement faire pour rester en dessous de 1,5 degré. Il faudrait tripler l'effort.
Cyril Dion, est-ce que vous faites partie de ce qu'on appelle désormais les collapsologues, ceux qui prévoient un effondrement imminent de notre civilisation? Ou est-ce que là, on va quand même trop loin?
En fait, si on continue comme ça, c'est-à-dire si on va vers plus 5 degrés à la fin du siècle, oui, une partie de notre civilisation risque de s'effondrer. Le fantasme qu'on a souvent avec ce que disent les collapsologues, que je connais bien, Pablo Servigne est un bon ami par exemple, c'est de croire que tout va s'effondrer du jour au lendemain, que ça va être comme dans un film hollywoodien. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que c'est une série d'effondrements. Aujourd'hui, on vit déjà un effondrement de la biodiversité, par exemple. On a perdu 60% des populations d'animaux sauvages vertébrés ces 40 dernières années. C'est un effondrement. Les insectes sont en train de disparaître 8 fois plus vite que les vertébrés. C'est un effondrement. Ce que je vous disais tout à l'heure sur l'eau, c'est-à-dire si on a un quart de la population mondiale qui se retrouve en situation de jour zéro, c'est-à-dire de plus avoir accès à l'eau courante, c'est une forme d'effondrement. Skif Cochet, par exemple, l'ancien ministre
de l'écologie,
de l'écologie qu'on aime bien moquer parce que il dit que tout va s'effondrer, que tout va
entre
disparaître dans les décennies.
Entre 2020 et 2040.
Voilà. Ce qu'il dit, lui, sa définition de l'effondrement, c'est de dire que un certain nombre de gouvernements ne seront plus capables d'assurer à leur population un certain nombre de services comme justement l'approvisionnement en eau, en énergie, en alimentation, grâce à nos réseaux. Ben l'eau, on y est déjà presque dans un certain nombre d'endroits. À Chennai, 11 millions d'habitants, ils avaient plus d'eau là il y a quelques mois.
Cyril Dion, beaucoup d'appels pour vous au standard de France Inter, 01 45 24 7000, la défense de l'environnement, notre avenir, ça passionne nos auditeurs. Stéphane est en ligne avec nous et patiente depuis un bon moment. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Cyril Dion vous écoute.
Bonjour Cyril Dion. Bonjour, pour vous poser une petite question par rapport, alors j'ai été agréablement surpris, vous avez parlé de décroissance et le débat il est très très difficile à mettre en place. Pour nous qui sommes décroissants depuis très longtemps, on pense vraiment que c'est la seule solution, puisqu'on voit les limites et la proximité du gouffre qui s'approche devant nous. Donc il serait temps de passer vraiment à une société complètement sobre. Et la question est comment l'organiser au plus vite. Donc déjà je voudrais dire merci d'avoir dit ce que vous venez de dire.
D'avoir dit le gros mot.
La solution, selon moi, et le discours est en train de devenir de plus en plus sur la place publique, c'est la décroissance, la sobriété, mais qui va être très compliquée à mettre en place. Il ne faut pas croire non plus que dans la seconde, on va pouvoir tout changer. Mais il y a une proximité qui nous oblige à être radical. Et je voulais vous dire déjà que j'ai apprécié personnellement le discours et que je pense qu'il faut encore plus le mettre en avant, c'est-à-dire aussi remettre en cause toute cette technologie, c'est-à-dire tous ces... vous faites des films, quel est l'impact de la production de films? Moi, je pratique le ski de fond, pour vous donner un exemple. On utilise des ratraques, des dameurs, et tout ça, il va falloir peut-être à un moment remettre en cause tout ça. Voilà. Mais merci pour votre discours. Et
Cyril Dion,
pour la suite.
Merci Stéphane.
C'est effectivement un gros mot, la décroissance. C'est-à-dire que comme toutes nos sociétés sont construites sur l'idée qu'il faut de la croissance et que c'est seulement la croissance qui permet de créer de la richesse, de la distribuer, de créer de l'emploi. Dire que il faudrait rompre avec ça est très souvent mal entendu ou pas entendu ou rejeté de façon assez dogmatique. Ce qui est très intéressant, c'est que là aussi, il y a des études qui ont été menées récemment. Une étude qui a été menée par un certain nombre de scientifiques sur cette idée de la croissance verte. C'est-à-dire, est-ce que c'est un scénario plausible de croire qu'on va pouvoir découpler la croissance avec l'utilisation de matières premières et la destruction de ressources naturelles? Sans beaucoup de surprise pour nous, la réponse était non, en disant on n'a aucun exemple qui existe, qui soit vraiment sérieux, qui montre qu'on puisse continuer à avoir vraiment de la croissance sans une destruction suffisamment significative de ressources naturelles et de matières premières, ce qu'il faudrait arrêter maintenant. L'ONU, pour son rapport soutenabilité de 2019, a commandé à un cabinet finlandais un rapport pour dire est-ce que le capitalisme est le modèle économique qui nous permet de lutter contre le changement climatique?
Réponse?
Non. Le capitalisme cherche à faire du profit à court terme et c'est complètement incompatible avec ce qu'on aurait besoin de faire. Donc quand j'ai rencontré par exemple Emmanuel Macron pour cette histoire de convention citoyenne, l'idée c'était que j'ai essayé un peu de l'acculer en lui disant non seulement vous prendrez pas les mesures, ce que je vous disais tout à l'heure, mais en plus notre modèle économique est inadapté.
Et qu'est-ce qu'il vous répond?
Ce qu'il a répondu, c'est ça. C'est en gros, je n'ai pas de meilleure solution que ce que vous me proposez, c'est-à-dire plus de démocratie, de la délibération, et que ça puisse aussi venir des citoyens. Parce qu'encore
une
fois,
mais après, il faut prendre des décisions.
Absolument. Et c'est pour ça que je n'hésiterai pas à le remettre face à ses engagements au moment où les décisions devront être prises quand les citoyens auront délibéré.
Alors, on a beaucoup de questions au Standard et sur le site de l'émission à propos de cette convention citoyenne pour le climat, avec ces 150 citoyens qui vont être tirés au sort ce mois-ci. On nous demande, mais concrètement, comment va se dérouler ce tirage au sort?
Ça va se passer comme pour un sondage. Et d'ailleurs, je crois que c'est Harris, l'institut de sondage, qui va l'effectuer. Ils vont prendre l'annuaire téléphonique.
Non, parce qu'on est 60 millions de Français. Alors, il va y avoir un tirage au sort.
Ouais, sur les listes téléphoniques.
Oui.
On a choisi les listes téléphoniques plutôt que les listes électorales pour qu'il y ait des personnes qui ne vont pas voter, qui puissent aussi être tirées au sort. Donc, à partir des critères qui...
Et après, on fait une sélection sociologique pour que ce panel de citoyens représente bien la France.
Exactement. Et les personnes qui seront tirées au sort auront le droit de refuser. Mmh. Donc elles auront le droit de dire non, je veux pas le faire. Si c'est le cas, il faudra tirer au sort une autre personne qui correspond aux mêmes critères. Et ensuite, ces 150 personnes-là travailleront donc à chaque fois des week-ends. Donc je crois qu'il y aura 5 week-ends, à chaque fois avec 3 semaines entre les week-ends, pour pouvoir digérer, pour pouvoir lire des rapports, pour pouvoir laisser aussi les discussions maturer. Et ces personnes-là seront indemnisées à la fois pour leur déplacement, pour leur repas, mais auront aussi une petite rémunération.
On va au Standard. Nicolas est à Nantes et il veut interroger Cyril Dion. Bonjour Nicolas, merci d'écouter France Inter.
Bonjour. Alors, ma question est très simple. Monsieur Dion, vous avez refusé la Légion d'honneur pour protester contre l'évacuation honteuse et musclée du pont Sully. Vous nous dites à l'instant que M. Macron vous répond à votre question par plus de démocratie. Donc je vous questionne sur la cohérence du discours. Est-ce que vous n'avez pas peur de finalement être une espèce de caution pour un gouvernement qui se moque bien, et qui vous le dit même en face d'ailleurs, des questions écologiques? Je vous pose la question de la cohérence. Comment est-ce qu'on peut prétendre, quand M. Macron vous répond par plus de démocratie, alors que de toute évidence, il n'y a pas de démocratie? On l'a vu de façon anecdotique, peut-être, par l'évacuation du pont Sully, contre lequel vous avez protesté. J'avoue que je suis un peu perdu.
On va vous répondre, Nicolas, une précision, Cyril. Donc vous avez refusé la nomination dans l'Ordre national du mérite.
Tout à fait. D'une part, j'ai refusé cette décoration à cause du pont de Sully, mais globalement, à cause des violences policières qui ont lieu dans notre pays et qui me préoccupent beaucoup. pas
que
moi d'ailleurs.
Quelle est votre réaction face à l'affaire Steve Maya Canisso?
Pour moi, c'est un jeune homme qui est mort noyé à Nantes lors de la fête de la musique. C'est une continuité de violences policières qui et de débordements avec des usages disproportionnés de la force. Qui ont quand même conduit le Conseil de l'Europe et l'ONU à interpeller la France en lui demandant de respecter les droits de l'homme. Enfin, je pensais pas que je vivrais ça de mon vivant, quand même. Mmh. Sur la question de la cohérence, je n'ai jamais fait mystère du fait que je suis pas un fan de ce gouvernement, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi globalement pour sa politique libérale qui va complètement à l'encontre de ce qu'il faudrait faire par rapport à tout ce que je viens de dire sur la décroissance, sur le capitalisme, etc. Maintenant, la question que je me pose, c'est de se dire, si on n'essaye pas cet exercice-là, qui est un exercice indépendant, c'est-à-dire que là, on s'est battu pendant des mois pour que cette assemblée citoyenne puisse délibérer de façon indépendante du gouvernement, qui va formuler des propositions qui sont supposées, donc si Emmanuel Macron tient parole, et s'il tient pas parole, ça sera un moyen de relancer la mobilisation encore plus fort, à mon avis, qui ont moyen d'aller au référendum. Donc, de créer un effet d'entraînement dans toute la population française. Si on fait pas ça, on fait quoi? C'est-à-dire qu'on attend 2022. Enfin, en gros, il y a deux réponses. C'est-à-dire, ou on croit qu'il faut faire la révolution, c'est-à-dire qu'il faut faire démissionner le gouvernement, qu'il faut démanteler la société industrielle et qu'il faut faire ça par la force en dehors des lois. Ou alors on se dit qu'il faut aussi agir sur le plan des lois, ce qui est mon avis. C'est-à-dire qu'à la fois, on a besoin de créer des initiatives locales, de la résilience, oui. Mais qu'on a aussi besoin de lois à l'échelle nationale et supranationale, auquel cas, attendre 2022, ça me paraît relativement criminel.
Cyril Dion, est-ce que vous êtes convaincu ce matin que l'année prochaine, 2020, après les délibérations de cette convention citoyenne, il y aura en France un texte avec des mesures radicales, très fortes pour la défense de l'environnement, texte soumis au Parlement ou à référendum? On y va en 2020? Parce qu'il y a urgence,
je peux pas être convaincu que ça va se produire, puisque c'est pas dans mes mains. Dans la Constitution française, le droit de déclencher un référendum, c'est le président de la République. Ce dont je suis convaincu, c'est que c'est certainement l'exercice le plus efficace qu'on peut mettre en œuvre aujourd'hui, et que c'est plus efficace qu'essayer de tendre le bras du gouvernement, parce qu'encore une fois, je pense qu'il ne fera pas du tout, il n'ira pas du tout dans le sens de la décroissance, que c'est l'exercice le plus efficace et qu'il ne marchera que si tout le monde continue à se mobiliser de façon considérable, de tous les moyens possibles.
Fabienne est avec nous et nous écoute. Bienvenue Fabienne sur l'antenne de France Inter.
Oui, bonjour Monsieur Veil, bonjour Monsieur Dion. Voilà, moi je voulais vous poser une question. J'habite Paris. Bon, il y a Monsieur Dion a parlé de Madame Hidalgo qui est une des élus qui fait le plus pour l'écologie. Et est-ce qu'il n'y a pas une contradiction justement au niveau de la région entre bon Madame Hidalgo gère Paris certes, mais quand on voit qu'on va y avoir la construction d'Europa City, la première pierre a été posée, ce sont des terres arables qui vont être utilisées, des terres riches pour lesquelles on avait déjà pris Euro Disney, voilà. Et je pense que quand on parle de décroissance, je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Dion et Europa City, c'est uniquement pour faire de l'argent. Voilà, c'est Merci. La question que je voulais poser.
Merci Fabienne. Cyril Dion.
Il faut arrêter tous ces projets-là, on le sait. Ce qu'on appelle les grands projets inutiles, c'est valable pour le grand contournement de Strasbourg, c'était valable pour Notre-Dame-des-Landes. C'est pour ça que le travail... qui est un moyen aussi de résistance et de mobilisation des zadistes, par exemple, est fondamental pour nous alerter là-dessus. Il faut arrêter d'artificialiser les terres, il faut arrêter de construire des projets qui demandent encore plus d'infrastructures, que ce soit plus d'avions qui volent ou plus de camions et de voitures sur les routes. Ça, c'est une évidence.
Vous voulez un autre projet de société? Vous pensez que vous arriverez à convaincre le gouvernement actuel qu'il faut vraiment un virage à 180 degrés?
J'arriverai pas à convaincre le gouvernement actuel tout seul. On n'y arrivera que si on est des millions. Quand on interviewait Nicolas Hulot dans Après-demain, justement, il disait le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un million de personnes qui sont dans la rue pour demander l'agriculture biologique, pour demander une taxe sur les transactions financières, pour demander qu'on arrête les énergies fossiles. Pourtant, il y a sans doute beaucoup plus qu'un million de personnes qui pensent ça. Donc moi, j'appelle toutes les personnes qui pensent ça aujourd'hui, qui sont conscientes qu'on va vers une situation dramatique dans les décennies qui viennent, à aller dans la rue, à faire de la désobéissance civile, à arrêter de donner leur argent à des entreprises qui continuent à subventionner les énergies fossiles, à détruire les écosystèmes et à rentrer en résistance.
Cyril Dion était l'invité de la rédaction de France Inter ce matin. Merci beaucoup et
merci
bon courage pour le lancement de cette convention citoyenne pour l'environnement.